Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui ne m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser, vous et moi, à l'IA, l'intelligence artificielle, comme on dit, comme on nomme ce puissant système d'aide à de multiples tâches. Non pas à l'IA en général, mais l'IA dans un domaine où les enjeux de son utilisation sont, me semble-t-il, considérables, c'est-à-dire l'éducation. Pour nous éclairer, j'ai invité Jean-Pierre Véran, outil venu à Divergence en mars 2025 pour parler d'éducation aux médias et à l'information. Merci de revenir. Cette fois, vous allez nous faire profiter à la fois de votre expérience, notamment d'ancien inspecteur d'académie chargé des établissements et de la vie scolaire, et de votre activité actuelle de chercheur au sein d'un laboratoire rattaché à Cergy Paris Université, dénommé Bonheur. Alors Bonheur au pluriel et en capital, puisque ça signifie, je décode, bien-être, organisation, numérique, habitabilité, universalité, éducation, bien sûr, relations et savoir, toujours au pluriel. Ouf. Alors Jean-Pierre Véran, pourquoi avez-vous choisi de rejoindre cette équipe dans cette activité de recherche ?
Ben, c'est une longue histoire, c'est l'histoire du métier, du travail, les rencontres aussi, les amitiés aussi qu'on se fait au cours du travail. Et il se trouve que moi, je suis au départ d'une formation disciplinaire, puisque je suis une formation de lettres. Et lorsque j'ai effectivement fait le choix de m'intéresser aux établissements et à la vie scolaire pour en faire mon métier d'inspecteur, il m'est apparu effectivement que ce qui était peut-être plus important que l'organisation des savoirs en discipline, c'était l'organisation des apprentissages dans les établissements scolaires.
Donc, de manière plus transversale.
Voilà, quelque chose de transversal. Et puis que finalement, l'apprentissage, c'était bien sûr des contenus de savoir, mais c'était aussi la manière dont on organise ces apprentissages, dont les élèves sont appelés à interagir ou à ne pas interagir, à produire quelque chose ou à répondre à des commandes. Et du coup, la recherche qui est celle du laboratoire Bonheur m'a passionné parce que c'est une recherche sur ce qu'on appelle dans le laboratoire le savoir-relation. C'est-à-dire que l'école, on dit souvent, c'est le temple des savoirs. Et nous disons que l'école, c'est le savoir-relation. C'est-à-dire la relation au savoir, bien sûr, mais la relation à soi-même, la relation aux autres, la relation au vivant.
Oui, très bien. Alors voilà pour cette profession de foi, le signe de cet engagement. Alors avant que nous fassiez part de votre analyse de l'IA dans l'éducation, un petit détour, comme d'habitude dans cette émission, non pas pour vous demander racontez-nous votre Montpellier, vous l'avez fait il y a un an, mais pour vous poser deux questions peut-être saugrenues. Quel est votre meilleur souvenir professionnel et probablement plus intéressant, quel est le pire ?
Alors, pour le meilleur, je vais prendre un exemple récent parce que ça remonte à 2024. Je faisais une enquête justement sur l'éducation aux médias et à l'information dans l'Académie de Montpellier. Et je suis allé dans divers établissements pour voir comment les choses se passaient. Et je suis arrivé en fin de journée au lycée de Montpellier, qui est le lycée Mermoz, où des élèves, sous l'accompagnement de leur professeur d'espagnol et de leur professeur documentaliste, réaliser un podcast sur la retirada.
Alors j'explique pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'immigration massive d'Espagnols à la fin de la guerre civile d'Espagne, voilà. Donc en 1939. Oui.
Et donc, ces élèves-là, ils étaient hors heure de cours. Ils sont venus faire ce travail et ce qui était magnifique, c'était de les voir travailler, de les voir s'engager vraiment dans ce qu'ils faisaient, puisqu'ils préparaient donc ce podcast en espagnol, et comment ils se corrigeaient mutuellement, comment ils se reprenaient pour arriver à la meilleure production possible. Et ce qui m'a frappé, et c'est en cela que c'est un bon souvenir pour moi, c'est que le prof d'espagnol me dit « Vous voyez ces trois-là ?» qui était particulièrement engagé dans le boulot. Il me dit, pendant toute la journée, ils ont été absents en cours. Et là, je me suis dit, voilà, le savoir relation, il est là. C'est-à-dire que ces jeunes ne trouvent pas nécessairement la volonté, la mobilisation pour aller en cours. La motivation pour aller en cours. En revanche, là, ils sont responsables, ils sont membres d'une équipe, ils savent que s'ils ne sont pas là, le podcast ne se fera pas. Et ils s'y engagent, ils viennent et ils travaillent en équipe. Et là, vraiment, je pense qu'ils apprennent beaucoup de choses, sans doute parfois plus que ce qu'ils pourraient apprendre dans une heure de cours.
Très bien. On y reviendra probablement sur cette approche. Et alors, le pire souvenir, là ?
Alors, le pire souvenir, ben écoutez, alors ça, c'est...
Même s'il est anecdotique.
Oui, c'est un souvenir. Bon, c'est un souvenir de cabinet comme inspecteur des établissements de la vie scolaire. On faisait partie des cabinets des recteurs de Montpellier. Ouais. J'ai un souvenir de ce qu'on appelle ces moments de crise où, à un moment donné... tout le ministère se retourne vers le recteur de l'académie en lui disant « Écoutez, ça ne va pas du tout. Voilà que les établissements les pires du point de vue de la violence scolaire, c'est dans votre académie. »
Ah d'accord, l'académie est pointée du doigt.
L'académie est pointée du doigt. Donc le recteur, évidemment, dans tous ses états, il mobilise son état-major, il me fait venir. Et je commence à lui expliquer qu'il y a mal donne, que c'est impensable que ce soit l'académie de Montpellier qui soit en tête des académies secouées par la violence. Et à ce moment-là, le recteur, hors de lui, parce qu'il attendait autre chose de moi, me dit « Vous me faites chier avec votre expertise
!»
Et donc, à ce moment-là, je lui dis « Monsieur le recteur, si vous le voulez bien, je repars dans mon bureau, et quand vous voudrez discuter avec moi, vous me rappellerez.
Voilà. » Très bien. Point de suspension. Merci. Alors, donc, revenons-en à l'IA à l'école, avec deux autres chercheurs, Louise Galendo et Laetitia Pierrot, qui appartiennent à d'autres laboratoires. Vous avez co-signé un article intitulé « Développement de l'IDA et forme scolaire, deux points, quel nouveau équilibre ?» Point d'interrogation. Article apparaît dans la Revue internationale de l'éducation de Sèvres. Avant de découvrir la démarche active et raisonnée d'appropriation de l'IA que vous proposez, il faut brosser le décor, plus exactement voir quelle est la situation actuelle. Alors, les élèves, bon, on le sait, se sont saisis massivement de l'IA. Jean-Pierre Véran, pouvez-vous décrire bon, les raisons, l'ampleur, ou en tout cas les formes de cet engouement spontané et non organisé, pour le coup?
Alors, il y a quelque chose de forcément séduisant, fascinant pour des esprits jeunes, des esprits à qui l'école impose une forme de travail scolaire dans laquelle ils ne se reconnaissent pas forcément, dont ils ne voient pas forcément l'intérêt pour eux-mêmes. Et ils ont trouvé facilement dans l'IA la possibilité de répondre à ces commandes sans autre effort que de transmettre la question qui était posée à la commande à la machine. Et la machine fait une réponse. Et donc, en fait, les professionnels de l'éducation se sont surtout trouvés au départ confrontés à cela, c'est-à-dire le fait que l'organisation du travail scolaire, de l'évaluation des acquis des élèves, etc., ça ne fonctionne plus, puisque effectivement, ce n'est plus le travail des élèves, mais c'est le travail de machine qui leur est présenté. Et donc, ça met vraiment en péril, en quelque sorte, l'organisation d'un système qui est...
L'organisation immémoriale.
Voilà, traditionnelle, hein, qui remonte aux jésuites sous l'Ancien Régime. Donc, évidemment, difficulté. Et par rapport à cette difficulté, la première réponse qui vient, c'est il faut interdire. Il faut interdire.
Donc, on n'a pas prise sur ce phénomène, nous échappe.
Voilà, donc l'école, c'est le temple des savoirs. Le temple des savoirs, les savoirs sont transmis par les professeurs. Enfin, il y a un triangle, les savoirs, le professeur, les élèves. Hein, voilà, c'est le fameux triangle pédagogique. Bon, ben, ce triangle-là, il faut le préserver, donc on met des murs. Et on évite que les réseaux entrent, etc. Et on fait des épreuves qui sont sans possibilité de, ouvrir les guillemets, triche, fermer les guillemets. Voilà. Ça, c'est la réponse, mais qui n'en est pas une, bien évidemment, parce que l'école, elle n'est pas simplement là pour faire passer des examens aux élèves. Si c'était juste ça la responsabilité de l'école, eh bien effectivement, on pourrait dire qu'elle fait passer des examens, elle s'organise pour que ces examens soient passés sans qu'on puisse avoir recours à l'IA. Mais l'école a aussi pour fonction, pour mission même, de former des citoyens. Et elle ne peut pas préparer des citoyens à entrer dans un monde où l'IA est partout sans qu'ils n'aient jamais rencontré l'IA à l'école. Donc, évidemment, la question doit se poser autrement. Et toute la question qui est posée actuellement à l'école, dans le monde entier, avec évidemment des différences tenant aux situations de développement différents des pays. La question qui est posée par tous, c'est comment s'y prendre pour faire en sorte que l'IA ne soit pas un obstacle, mais au contraire un moyen d'améliorer les apprentissages.
Alors, on va y revenir, bien sûr, parce que c'est l'angle le plus intéressant là, que j'ai repéré en vous proposant que nous échangions. Alors, vous l'avez un peu évoqué, dans les spécialistes de l'éducation, plus que des espoirs, expriment souvent des craintes, voire des inquiétudes sur les effets de ce tsunami dans le parcours scolaire. Qu'en pensez-vous? Quels sont ces risques? Jusqu'où ça peut aller, quoi, entre la perte de repères ou même pire dans ce parcours scolaire?
Alors, j'ai envie de partir d'un ouvrage récent qui est un ouvrage d'Éric Sadin qui s'appelle « Le désert de nous-mêmes » qu'il a consacré à ce tsunami de l'IA, ce tsunami mondial sur les sociétés entières, sur l'humanité entière. Et quand il dit « Le désert de nous-mêmes », il exprime quelque chose qui est quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'il dit ce n'est pas un phénomène technologique de plus, ce n'est pas une marche supplémentaire dans le progrès numérique, c'est une rupture anthropologique. Parce que pour la première fois, effectivement, ce sont des machines qui sont capables de créer du discours humain, des images humaines, etc., etc., de la musique humaine. Bon. Et à partir de là, effectivement, le danger, si cela se passe sans contrôle aucun, c'est que les personnes, finalement, enfin, l'humanité se vide de l'intérieur en quelque sorte en sous-traitant ses capacités humaines à des réseaux de machines algorithmiques.
Donc dépossédée d'une partie d'elle-même.
Dépossédée d'une partie d'elle-même et de la partie la plus créative, finalement, de soi-même.
La plus spécifique à l'humain, peut-être.
Voilà. Alors, si vous voulez, d'une certaine façon, c'est pas absolument nouveau, parce qu'on a bien vu dans les révolutions technologiques du passé, on pense aux machines à tricoter ou aux métiers à tisser, comment le passage de l'artisanat à la machine a conduit des artisans qui avaient une forme d'indépendance sociale à devenir des prolétaires.
Oui, avec un savoir-faire spécifique, voilà. Un savoir-être peut-être.
Voilà. Et ils ont été prolétarisés, ouais. Parce qu'ils sont entrés dans des entreprises où cette fois on les organisait dans le travail à la chaîne. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a aussi un peu de ça, que certains métiers peuvent se trouver dans des situations de prolétarisation, ce qui explique qu'effectivement, dans pas mal de pays, je pense par exemple à Madagascar, mais je prends cet exemple-là, des diplômés en informatique sont des véritables esclaves des centres de données qui servent à nourrir les intelligences artificielles. Donc, c'est pas absolument nouveau. Mais ce qui est, en revanche, extrêmement nouveau, c'est que, avec ce système d'intelligence artificielle, on peut imaginer qu'on puisse se passer complètement, oui, du recours à l'intelligence humaine même. Et donc, il y a là un danger anthropologique. Et c'est ce sur quoi Éric Sadin alerte. Je ne suis pas de ceux qui pensent. Alors, je veux dire, je ne suis pas de ceux qui pensent que il faut jeter l'IA aux orties. Oui. Et c'est pas la bonne réponse. Mais je pense qu'il faut avoir présent à l'esprit la rupture anthropologique que ça constitue, et d'autre part, le fait aussi que, pour peu qu'on ait le souci quand même de l'avenir de la planète et de la durabilité des choses, la progression vorace des data centers qui nourrissent
la consommation d'énergie, voilà. Absolument, voilà. Gigantesque.
Donc il y a de vrais problèmes. Il y a de vrais problèmes, et ces problèmes-là, ils existent et ils supposent une solution politique. Ouais.
Alors voilà, on a vu les grands enjeux. Revenons un peu sur le terrain, comme on dit. Alors face à ces enjeux, où en est l'institution scolaire? Vous l'avez évoqué. Quelle est la réponse aujourd'hui du ministère aux questions posées, qui me semble, vous l'avez dit vous-même, encore plus fondamentale que les mutations technologiques, le numérique, ou les changements communicationnels comme les réseaux sociaux? Là, que sait-on là, que fait l'institution? Que fait la rue de Grenelle pour évoquer, voilà,
ministère
de l'éducation?
Ce qui est amusant, évidemment, c'est de voir comment chaque pays réagit en fonction de sa culture et de sa conception de l'éducation. Je vais prendre juste un exemple étranger. la ville.
Alors, je vous coupe pour indiquer que dans vos activités actuelles, vous avez une vision internationale. Ouais. Hein, c'est une des vocations de ce laboratoire, ouais, d'aborder les choses en regardant au-delà des frontières.
Voilà. Et donc, par exemple, je prends l'exemple de la ville de Pékin. Elle s'est dotée à la rentrée 2025 d'un plan de développement de l'éducation à la formation à l'IA. Et c'est un plan donc local qui vise à généraliser la formation des élèves de Pékin, donc depuis les classes élémentaires jusqu'aux classes secondaires, à l'intelligence artificielle, avec dès le départ l'idée qu'il faut essayer de trouver, déceler parmi les élèves les plus performants, les plus doués pour construire l'élite de l'intelligence artificielle du futur, l'élite chinoise, et d'autre part, l'idée qu'il faut introduire cette IA, et c'est là-dessus qu'on voit aussi une forme de culture politique, il faut que cette IA, on l'introduise aussi dans les quarts d'heure de pause. C'est-à-dire qu'entre les cours...
On contrôle la transmission des savoirs, oui, mais on contrôle aussi les temps dits libres.
Voilà. Donc, alors, c'est assez intéressant de voir. Bon, c'est donc à l'échelle locale, là, dans ce pays. Bon, dans notre pays, c'est toujours à l'échelle nationale. Donc, à l'échelle nationale, effectivement, notre ministère n'est pas indifférent à la question. Il a donc produit un cadre d'usage. Et ce cadre d'usage, ça fournit des repères, en quelque sorte, aux équipes.
Des repères fonctionnels, je dirais.
Oui, alors des repères fonctionnels, des repères, pédagogiques, de façon à ce que les professeurs qui veulent s'engager dans cette voie aient un cadre d'utilisation qui garantisse en quelque sorte la légitimité de ce qu'ils font. Mais ce n'est qu'un cadre d'usage, c'est-à-dire que finalement, c'est ensuite aux équipes, dans les écoles, les collèges, les lycées, de voir ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles veulent faire. Alors, évidemment, il y a à côté de cela tout un dispositif de sensibilisation, de formation, le réseau Canopé notamment, qui...
Canopé, pour les vieux comme moi, c'est les anciens CRDP.
Voilà, qui produisent donc des webinaires, des conférences, etc. Donc il y a un accompagnement, hein, c'est sûr. Mais ce qui est caractéristique de notre système, c'est que l'approche reste une approche que je caractériserais, comme le dit mon collègue et ami Régis Mallet, dans les zones grises. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout au tout changer les choses. C'est-à-dire que l'école continue comme avant.
C'est-à-dire qu'on continue dans ses méthodes, dans les
oui, programmes. Dans ses programmes, dans ses méthodes, dans ses choix d'enseignement, on continue, l'organisation ne change pas. Mais si on peut mettre une pincée d'IA en plus, eh bien c'est tant mieux.
Donc, on laisse la révolution à la porte, en quelque sorte.
Voilà. Ouais. Bon, c'est un peu la caractéristique de notre système de formation français.
Hein. Alors, précisément, donc, vous constatez, votre vision, là, bon, qui n'a pas démarré avec le regard sur l'IA, qu'il y a un décalage de plus en plus grand entre l'institution scolaire et cette réalité, ou ces bouleversements dans la société.
Alors, je dirais que l'institution scolaire, elle est prisonnière de ce qu'on appelle, en sociologie de l'éducation, la forme scolaire. Il y a une forme scolaire.
Oui, c'était dans l'intitulé, voilà, de votre papier, oui, là, donc ça a un peu une question.
Voilà, il y a une forme scolaire, ouais, et cette forme scolaire, on la connaît, c'est des heures d'enseignement disciplinaire qui se succèdent, avec des élèves qui suivent ces mêmes enseignements, classe par classe, et donc la formule idéale de cette forme scolaire, c'est un prof, une discipline, une salle, une classe. Et évidemment, il y a de multiples domaines du savoir qui échappent à ce système-là, qui ne trouvent pas leur place dans ce système-là. Et donc, notre système, il a cette organisation principale, dominante, et puis à côté, il met tout le reste. Et donc, c'est ce qu'on appelle les éducations A. Éducation à ceci, éducation à cela, on a parlé d'éducation aux médias.
Éducation à l'information dont nous avons parlé tout à l'heure.
L'éducation aux médias à l'information, l'éducation financière, c'est aujourd'hui d'ailleurs une journée de l'éducation financière, etc. Bon, bref, il y a toutes sortes d'éducations qui sont légitimes de droit, mais qui, de fait, ont peu de place dans le système, puisque le système, il est complètement verrouillé par les heures d'enseignement qui sont définies à des disciplines particulières. Donc, c'est ça un petit peu la difficulté de notre système, et c'est pour ça que, finalement, il s'accorde une forme de respiration avec ces zones grises dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire, ben, voilà, vous pouvez faire de l'éducation à l'IAC, vous pouvez faire de l'éducation, c'est bien que vous en fassiez. Il faut même le généraliser, mais le généraliser... comme vous pouvez.
Sans remettre en cause ce que produit le dispositif immémorial que vous avez décrit. Alors, nous avons parlé des menaces engendrées par l'IA au début notamment. Sans les ignorer ou plutôt en les prenant en compte, vous êtes de ceux qui mettent en avant les opportunités qu'elle offre, vous l'avez dit. Alors, ces opportunités, quelles sont-elles? Comment, entre guillemets, bien utiliser l'IA, utiliser intelligemment l'IA dans le cadre d'un parcours scolaire ou d'une formation?
Alors, je crois que ça peut être l'occasion, effectivement, de repenser notre forme scolaire. À savoir que ce qui est attendu des élèves jusqu'à présent, c'est qu'ils écoutent, qu'ils prennent des notes et qu'ils répondent au moment où on les interroge. Et là, les choses peuvent être différentes, dans la mesure où, si on fait appel à l'IA pour progresser dans les apprentissages, pour rassembler des connaissances, pour faire des enquêtes, il faut bien, au départ, savoir questionner.
Il s'agit d'apporter, de ne pas apporter la bonne réponse, mais de poser la bonne question.
Poser la bonne question
à la machine
et dialoguer avec elle. Il ne s'agit pas simplement de lui poser une question et puis attendre la réponse, mais en fonction de ses réponses, argumenter, dialoguer avec la machine,
reformuler
la question pour arriver à la bonne question qui lui permettra d'apporter la réponse qu'on attend d'elle. Et donc ça, c'est déjà un changement d'angle.
Ah oui, il y a presque un renversement.
Voilà, un renversement par rapport à la pratique habituelle. D'autre part, si on accepte effectivement que l'IA fasse partie du dispositif de travail scolaire, ça veut dire que on doit sortir de cette implicite, de cette cachotterie, de cette hypocrisie qui consiste à faire qu'on y a recours sans le dire, sans le montrer. Mais au contraire, on l'affirme et on le donne, on le cite parmi les outils de travail, les instruments de travail, on y fait référence. Lorsque on donne une réponse de l'IA, on ne dit pas c'est ma réponse, on dit c'est la réponse de telle IA, questionnée tel jour, à tel moment. Bon. C'est-à-dire qu'on fait un travail, je dirais, qui reste académiquement probe, propre.
On révèle ou on dévoile ce qui s'est passé, quoi,
voilà.
La procédure,
ouais.
Le système qui a conduit à proposer des réponses.
Voilà. Et ce qu'on attend de l'élève, et de ses enseignants évidemment, c'est qu'il cultive aussi la distance critique par rapport aux résultats. C'est-à-dire qu'effectivement, il y ait, on en parle beaucoup de l'esprit critique, ça fait partie de l'héritage des Lumières, dont notre école est l'héritière, mais l'esprit critique à l'égard des IA, c'est effectivement de ne pas dire « bon ben j'ai la réponse parce que j'ai l'IA », mais que me dit cette réponse? Qu'est-ce qu'elle ne me dit pas? Quels sont les biais éventuels, etc. etc.
C'est-à-dire décrypter que, la
voilà,
réponse.
C'est-à-dire arriver à être en surplomb par rapport à la réponse apportée.
Tiens, revoilà l'humain, là.
Voilà.
Au passage. Très bien. Alors, entre d'une part le refus de l'IA, que ce soit par peur du changement ou par déni, on l'a évoqué, et d'autre part l'emballement techniciste irraisonné, vous plaidez pour ce que vous appelez, c'est dans le titre de votre article, de nouveaux équilibres. Quels en sont, à grands traits, les principes de ces nouveaux équilibres? Vous l'avez un peu dit, mais je pense que ça vaut le coup d'y revenir.
Je veux bien le développer parce qu'effectivement, ça me paraît important. Peut-être que la puissance impressionnante et toujours en progrès des intelligences artificielles peut nous convaincre que notre humanité, ce qui en fait la richesse, ce n'est pas sa toute puissance, mais c'est au contraire ses fragilités. Et que ce qu'il faut cultiver justement pour échapper au désert de nous-mêmes, dont parle Eric Sadin, c'est développer toutes les capacités qui sont les nôtres et qui sont fort peu développées finalement dans l'école telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que notre école est encore une fois formatée autour d'un certain nombre de savoirs disciplinaires et que, par exemple, on fait écrire les élèves. Mais comme par hasard, l'écriture d'invention, elle a disparu des épreuves de l'examen.
Ah bon, d'accord, je ne savais pas. Ouais. C'est-à-dire la place laissée à l'imagination ou à l'imaginaire.
Ouais, voilà, pas question. Pas question. C'est, vous comprenez, c'est trop difficile à noter.
Ah, c'est la norme a difficilement sa place.
Voilà. Ouais. Alors, donc, on fait des exercices de résumé, des choses comme ça, mais ou des exercices scolaires extrêmement formalisés, mais l'écriture imaginative, non. Donc, voilà, cultiver l'imaginaire, cultiver les compétences socio-émotionnelles. Ne pas considérer qu'il n'y a que le cerveau qui soit important dans le développement humain, mais que c'est l'ensemble, un ensemble effectivement socio-émotionnel. Développer aussi, toujours ce qu'on fait assez peu à l'école, l'agir collectif, l'agir ensemble. Quand je parle de savoir relation, c'est aussi ça, c'est savoir agir ensemble, savoir prendre des initiatives
comment
communes.
Comment coopérer entre élèves, notamment. Pourtant, il y a des choses qui se font voilà. Dans ce domaine,
alors, y en a
elles vous paraissent insuffisantes.
Ben, oui, il y a de très belles choses qui se font. Hein, je donnais cet exemple tout à l'heure là, de ce podcast au lycée Mermoz. Il y a de très belles choses qui se font collectivement, effectivement, mais ce n'est pas la part essentielle. Or, peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, on pourrait modifier les équilibres et donner plus de place à ce type d'action.
Alors, on s'achemine vers la fin de l'émission. Là. Une petite question concernant les parents, on ne les a pas évoqués. Oui. Bon, ils sont probablement souvent dépassés. Ils le sont quand ils voient le temps que les enfants passent devant les écrans. Et par rapport à l'IA, ils sont certainement un peu perdus ou ils se sentent inactifs ou incapables. Quelle petite piste hein, vous pouvez indiquer brièvement aux parents qui nous écoutent.
Je crois que ce qui est important, alors déjà, je m'adresserai aux écoles et aux professionnels des écoles, c'est effectivement associer directement les parents. Non pas pour leur faire des leçons, hein. J'ai horreur de l'expression, par exemple, l'école des parents. Je trouve ça honteux. On va vous apprendre à être parent. Non, ce n'est pas la question. Mais effectivement, réunir les parents, organiser des discussions avec eux sur ces sujets-là, à partir des témoignages des enfants, des témoignages des élèves qui disent ce qu'ils font, etc., et que les parents disent ce qu'ils observent, que les professeurs échangent avec eux. Il me semble qu'il y a là, effectivement, la constitution d'une véritable culture commune d'approche de ce phénomène de société majeure qui est l'émergence de l'IA.
Alors on va rester sur cette note optimiste. Bon, on avait commencé, c'est pas le fait du hasard, en pointant quand même, on les a évoqués plusieurs reprises, les enjeux et même les menaces, ou les craintes que les IA peuvent faire naître, mais on a ouvert la voie à des approches positives. Et je vous en remercie, Jean-Pierre Véran.
Très bonne journée à vous.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.